CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Avec aujourd'hui Aveline Carmois et Vincent Godard à la technique, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pistuggia qui réalise cette émission. C'est la Saint-Valentin. Alors, pas de chagrin pour arroser la pelouse, non. De l'amour, de la chaleur pour faire pousser la vie et bourgeonner les cœurs. Car chez l'humain, l'amour c'est tout le temps, non-stop, 12 mois sur 12. Et dans la nature, que se passe-t-il? Eh bien, on s'aime aussi dans la nature. Du plus petit au plus grand, on fait l'amour en miniature, dans les prés, dans les champs. On s'aime entre coccinelles, on s'aime bête à bon Dieu, on s'aime mouche à bœuf, baiser de l'araignée, caresse de l'acarien, la blatte, patte de velours ou bien le ver à soie, le lombric. Mais oui, eux aussi parlent d'amour. On sème dans la nature à 2, 4, 6 ou 8 pattes, on sème partout, un peu, beaucoup à la folie. Et grâce à l'amour, on voit aussi mais des trucs de fou en ce moment. Les 4x4 roulent une pelle au vélo, la droite drague les écolos, à la Saint-Valentin, Claude Allègre sur la bouche embrasse le hulot. Ah, bon, il y a quand même de l'eau dans le gaz chez Proglio. Oui, depuis qu'Areva s'en est allé compter fleurette chez GDF avec GDF Suez. Ces deux-là vivront heureux leur vie, auront beaucoup de petits EPR, et c'est nous les abonnés qui tenons la bougie, mais que vive la lumière. Ah, on voit de ces trucs à la Saint-Valentin, les dealers de pesticides font danser les beaux bio, les algues vertes amoureuses folles du phosphore veulent avoir avec leur ami le nitrate un beau fil à la patte. Le libéralisme, au lieu de tondre la laine sur le dos de tout ce qui passe, redevient un mouton et broute tranquille en repensant le monde. Avec le vivant, être en phase. Les cerfs, oui, même à la mi-février, dans les forêts, ils n'attendent plus le brame. Ils y vont de leur effet, bon, de cerfs bien sûr, et mettent à fond les gaz. Saint-Valentin, on sème partout, on sème à tout vent, dans les rivières, les étangs, on sème entre moustiques, on sème entre tortues, mais alors s'il vous plaît, pas de sacs en plastique. Et attention, en traversant les routes et les rues, car on sème aussi entre grenouilles, salamandres et crapauds, et même avec des pustules, on tient à notre peau. Nous, les humains, on s'aime dans la nature, mais on s'aime aussi dans la voiture. Donc, messieurs les élus, il nous faut plus d'autoroutes. Et oui, c'est QFD, des aires de repos, pour s'aimer, bah oui, pour rouler des mécaniques, et encore plus d'aéroports, pour s'envoyer en l'air, à la vie, à la mort, à l'endroit, à l'envers, le BTP, c'est la recette magique. On sème dans la nature, on sème dans la froidure, on sème sur la banquise, à vent couvert, avec écharpe ou moufle. Ah, sortir toujours couvert, très cher, vous êtes exquise. On sème au coin du feu, au coin de la cuve à fioul, bon, c'est moins romantique, merci Total. De la neige en février, ah, la faute à El Niño. Ou bien à ces incapables de climatologues du GIEC, ça se réchauffe qu'ils disent. Mais avec un froid sec, allez comprendre. De Venise à Chicago, de Toulouse à Laval, il y a du monde au balcon. L'hiver 2010 nous fait son carnaval. On sème à la montagne ou bien en bord de mer, on sème en haut des dunes avec vue sur les pêcheurs et les thoniers sonneurs. Alors pour sauver les requins, les baleines et les thons, s'il le faut, tant pis, rejoue-moi mon amour, la chanson de la passante du sans-sushi. On sème dans la nature car on croit au futur, et dès que s'en sera fini des bouffeurs de dollars, de la finance vertueuse, l'avenir enfin pourra être écrit. Saint-Valentin, sainte écologie et biodiversité, dans la nature ou bien au chaud, continuez à vous aimer. Vous faites fondre la neige, on pioche à deux dans le noir des tas de mots d'espoir pour écrire une suite à notre histoire. Et voilà, alors au menu de cette ronde des journalistes, eh bien Anne Chaon de l'agence France Presse, Hervé Kempf du Monde aussi avec nous, Eric Glover de Courrier International, parce qu'on n'est pas centré, on a nos neurones qui ne sont pas centrés que sur notre nombril hexagonal ou bien européen, et puis Jean-Marie Pelt du département de la Moselle. Êtes-vous là, cher Jean-Marie, d'ailleurs?
Oui, tout à fait.
Oh, bah, c'est très bien.
J'ai remarqué que vous vous écriviez en vers maintenant.
Demi-liton.
C'est encore plus extraordinaire qu'avant.
Oui, je sais bien, mais je ne suis pas sûr de forcément d'avoir un grand prix de poésie avec ça, mais ce n'était pas forcément l'essentiel.
Moi, je vous donne un grand prix.
Oh, vous êtes absolument charmant.
Oui, absolument. J'hésite pas une seconde.
Bon, vous avez une voix un petit peu enrouée dans votre Moselle, il fait combien quand même?
Ah, il fait moins 7.
À moins 7
bon, oui, ça va. Oui, 7. Bon. Lui, il a fait moins 8.
Bon,
oui.
Vous ne sortez pas dans votre jardin en robe de chambre au clair de lune, hein, pour revoir.
Ah, vraiment, il n'y a d'ailleurs pas de clair de lune par les temps qui courent.
Bon, ben voilà,
donc
c'est ça.
Sombre.
Lorsque l'on parle de l'hiver, comment vous réagissez? Parce qu'actuellement, dans les médias, c'est un hiver absolument exceptionnel, etc. Donc,
non.
Non,
bon. Non, c'est un hiver comme j'en ai connu d'innombrables plus tôt dans ma vie. Ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que des hivers comme ça, on n'en a pas eu depuis 1997. En 97, on n'en avait pas eu depuis 1986, et avant, il y avait des gros hivers. Alors, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est pourquoi n'y a-t-il plus eu d'hiver? Je suis lorrain, l'hiver lorrain est considéré comme quasiment sibérien. Nous n'avons pas eu d'hiver pendant 12 ans. Pas eu d'hiver du tout. Nous ne savions plus ce que c'était. Et c'est ça qui était exceptionnel. C'est pas le fait d'avoir de nouveau un hiver, disons, normal.
Alors Jean-Marie, on va se lancer les uns et les autres avec quelques thèmes communs. On va dire qu'il y a une espèce de un peu de gueule de bois environnementale après Copenhague. Quel est un peu votre sentiment?
Je la ressens très fort. Je suis très frappé du fait que le soufflet de Copenhague était monté si haut dans les médias que beaucoup de gens croyaient que si Copenhague ratait, toute l'humanité serait morte le lendemain. Il y avait vraiment une sorte de millénarisme, de catastrophisme, d'apocalypse. Et puis le soufflet est retombé. Et maintenant, je m'aperçois qu'avec le livre que nous avons fait ensemble, Denis, des dons précieux de la nature, ça n'intéresse plus personne. Parce que pour le moment, l'écologie est mise entre parenthèses. Et les journalistes que contactent dans les achats de presse me disent, même ils sont la même chose, ils disent, non, on a eu Copenhague, maintenant, on se repose. Et ça m'inquiète beaucoup.
Alors, réaction peut-être de nos différents invités, Hervé Kempf, un peu sur ce thème, et peut-être aussi le mettre en relation avec les attaques depuis à peu près 2 mois que subit le GIEC.
Aussi, oui.
Oui, ben voilà, on est effectivement la gueule de bois après une attente énorme et donc un intérêt très grand avant Copenhague, mais qui était totalement justifié. C'est-à-dire, je crois que nous, journalistes, on a tout à fait notre travail en montrant à quel point l'enjeu de Copenhague était important. Après, Copenhague ne pouvait pas être non plus l'humanité entière se donnant la main et décidant ensemble de changer radicalement de mode de vie en étant dans un monde totalement juste et équilibré. Donc, fatalement, la raison politique a imposé un scénario différent et on a dans le même temps cette espèce de soulagement, et pour employer des mots forts, je dirais l'esprit de Munich, c'est-à-dire le soulagement finalement à on n'arrive pas à s'entendre, ça n'est donc pas possible, de toute façon c'est la Chine qui est responsable de tout, ne faisons rien. Et dans le même temps, on voit la remontée d'attaques contre la science du changement climatique et contre le GIEC. Je crois que Anne va nous en parler très bien. Ce qui est tout à fait fascinant dans cette affaire, c'est d'une part que aucun élément scientifique sérieux n'a été avancé qui affaiblisse réellement la théorie du changement climatique. Ça, c'est le premier point. Ce sont des arguments très faibles. Et par ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de joie de tout un tas d'intellectuels, d'élites. Moi, j'étais frappé, je ne peux pas donner de nom, mais de gens qui sont dans des responsabilités, dans l'économie, dans l'entreprise, éventuellement même dans la négociation du changement climatique, qui disent « Ah ben finalement, on n'y croit peut-être pas tout à fait à cette histoire de changement climatique. » On voit des gens comme Elisabeth Badinter, dont les compétences en climatologie sont, il faut bien le dire, assez faibles, dire « Mais dans le point, il y a déjà eu de tels épisodes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, etc. » Donc voilà, effectivement, il y a un effet boomerang après cette tension très grande qui s'est produite derrière Copenhague. Ben écoutez, on va revenir au travail, on va continuer à dire les choses parce que la vérité derrière tout ça, enfin la vérité, je ne sais pas, je ne peux pas, personne ne peut dire qu'il y a la vérité, mais en tout cas, il faut bien se rendre compte que le changement climatique, hélas, continue, la crise de la biodiversité continue, la crise écologique continue et nous ne sommes toujours pas mis sur les rails de changer la société pour faire face à cette crise écologique qui a une dimension, rappelons-le, historique.
On n'a pas évidemment trouvé exactement le plan B. Anne Chaon de l'agence France-Presse.
Oui, je voulais juste dire que je crois qu'on a fait, nous journalistes, notre métier, comme le disait Hervé, Mais on a peut-être participé à cette fiction d'une grande messe, d'un rendez-vous de l'histoire, dans cette fiction dans laquelle les chefs d'État, les ministres sont engouffrés pour justifier leur déplacement. On a entendu quand même des personnalités, des leaders politiques parler du rendez-vous de l'humanité, y compris ici en France. Et puis une fois que les ministres avaient obtenu de leur chef d'État qu'ils effectuent le déplacement, il fallait vraiment accréditer l'idée que c'était maintenant ou jamais. Or finalement, on s'aperçoit après coup que les chefs d'État ont tué le sommet. Parce qu'en venant prendre la place des ministres, ils ont obligé les ministres à arriver plus tôt, au lieu d'arriver en fin de deuxième semaine, parce que les ministres voulaient avoir aussi leur petite part sur la scène de Copenhague. Du coup, dès la fin de la première semaine, on n'a plus travaillé, on n'était que dans le show-off. Et finalement, on est tous un peu responsables. Et je crois que juste, il y a une leçon à tirer d'ici Cancun, puisque ce sera le prochain grand rendez-vous à la fin de l'année, c'est de ne pas recommencer ça. Il y a vraiment des choses à faire, ça reste aussi urgent, il y a des décisions importantes à prendre, mais peut-être que d'avoir voulu en faire trop et d'en faire le rendez-vous du siècle, eh bien, on a fait... trop d'histoire, ça tue l'histoire.
Eric Glover, donc, de Courrier International. Là aussi, on va peut-être voir quelles réactions donc, il y a eu, parce que du côté français, du côté européen, on s'est dit, bon, Obama d'un côté, les Chinois s'entendent, surtout qu'on ne vienne pas mettre notre nez dans nos affaires. Obama avait donc à la fois son congrès quand même qui le verrouillait avec l'histoire de la sécurité sociale donc, américaine, donc il voulait faire passer. Les Chinois, de par leur fonctionnement, de toute façon, ne veulent pas qu'on mette leur nez dans leurs affaires. Quels échos vous avez eu et quel retour vous avez eu du côté Courrier International ?
Bon, moi, je commencerai par dire que pour savoir si la presse a bien mal fait son travail, je laisse les auditeurs, lecteurs, téléspectateurs le décider. C'est pas moi, professionnel, de le dire. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, par rapport à ça, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est un problème européen, c'est un problème occidental de penser que c'est une catastrophe, le climat. Je ne dis pas que ce ne soit pas une catastrophe, je dis que c'est un regard occidental. C'est-à-dire c'est The Economist, qui est un magazine libéral par excellence, qui est un bon magazine, mais très libéral dans ses théories, qui va aller dire « c'est les Chinois qui ont tout saboté ». Voilà, les Chinois ont tout saboté. Les Chinois qui, par tête de pipe, consomment infiniment moins que nous, je le rappelle encore une fois, les premiers pollueurs de la planète sont les Occidentaux de manière écrasante. Les portables qui se multiplient, c'est une horreur écologique. D'accord ? Les voitures à Toyota, ce n'est pas en Chine qui rappelle leurs voitures. Hein, je le rappelle aussi, ce genre de choses. Et ça, c'est écrit dans les journaux indiens qui, eux, estiment que bon, ils ont sauvé leur économie, ce n'est pas si mal ce qu'ils ont obtenu. Les Brésiliens étaient particulièrement déçus. Particulièrement déçus dans la presse brésilienne. Vous avez un magazine qui est assez bon, qui s'appelle Galileo, qui est un magazine de science. Ils ont un article qui était assez dur par rapport aux Occidentaux, en disant « nous, on a essayé de dire, on a essayé de lever le doigt en disant « on a envie de changer les choses, on est en cours de développement, on est prêt à faire des efforts et on n'a pas trouvé de répondant ». Et ça, c'est un des problèmes. Alors ensuite, pour ce qui est de Copenhague, moi, je suis d'accord avec Anne et Hervé. Voilà, c'était le sommet de l'ultime chance, de la dernière possibilité de sauver la planète de cette année. D'accord ? L'année prochaine, on aura un autre sommet de l'ultime chance de la dernière. On en a un tous les ans depuis 20 ans.
De l'ultime chance, oui.
Voilà, c'est le dernier des derniers des derniers. Après, c'est fini. On claque la porte et ça fait 20 ans que ça dure. Alors évidemment, les gens, ils sont intelligents, ils écoutent, ils voient ça et puis ils finissent par se dire, bon, bah, puisque c'est la dernière ultime chance de ce mois-ci, on va attendre le mois prochain. Oui, c'est comme les soldes. Oui, donc d'accord. Ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'à force de survendre un problème qui est totalement réel, on finit par l'amenuiser. Et on n'en prend plus conscience. Or, les gens se rendent compte d'un problème, mais ce problème, alors ça je suis sûr que tous les gens autour de cette table seront d'accord avec moi, on ne le résoudra pas dans le monde actuel. C'est pour ça que c'est amusant de voir The Economist, journal libéral, condamner les Chinois. Parce que c'est dans le système libéral que l'on ne peut pas sauver la planète. On ne peut pas garder l'environnement à côté des choses. L'environnement est l'essence des choses.
Donc, comme c'est la fin des périodes de soldes, j'espère que ça va aller mieux pour le climat. On se retrouve dans quelques instants. Là, on va revenir chez nous en France. Vous voyez Lyon, vous voyez la presqu'île. Donc, d'un côté, vous avez la Saône. De l'autre côté, vous avez donc le Rhône, donc les deux fleuves. Et c'est chanté par Benjamin Biolay qui est là-bas.
La colline qui prie et la colline l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère, j'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylo bi. Lyon, presqu'île. Il y a une gare morne et l'autre fière d'aller jusqu'au sport d'hiver. C'est comme si j'étais parti, parti hier. Et puis la statue du roi soleil sur la grande place éternelle. De belles cours gorgées, gorgées, gorgées de soleil. Je serais dilettante et mort de rire en sentant le mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serais dilettante à temps partiel jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère, j'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylo bi. Lyon, presqu'île. Avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serais dilettante, mort de rire, en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serais dilettante à temps partiel, jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère.
Un chercheur, on le laisse 30 secondes tout seul. La première chose qu'il fait, faut qu'il fasse chier une souris. J'ai lu qu'il y avait un chercheur qui avait pris une souris et qui lui avait greffé une oreille de cochon sur le dos. Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, les souris? Ils n'ont pas fait 15 ans d'études pour finir des ratiseurs.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Et oui, donc avec cette ronde des journalistes, avec Jean-Marie Pelt, Anne Chaon, Eric Glover, Hervé Kempf, un sujet qui vous tient à cœur. Donc Hervé Kempf, je le rappelle, alors vous avez écrit deux ouvrages qui se portent pas mal du tout pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Et puis il y avait eu Comment les riches aussi détruisent la planète. C'est l'occupation de l'espace. On connaît ce mitage, Télérama aussi titré sur les villes qui deviennent de plus en plus moches, en tout cas les entrées de villes, ça c'est certain. Mais l'occupation de l'espace, le gaspillage de l'espace. On se dit qu'on est dans un pays de 550 000 km², on a une densité de 110 habitants à peu près au km², donc on se dit tout va bien. Et en fait, non, ça grignote de plus en plus.
Ce que montrent les enquêtes statistiques, il y en a une qui s'appelle Teruti, qui est faite par le service statistique du ministère de l'Agriculture et qui fait un relevé tous les ans sur 300 000 points du territoire pour voir si tel ou tel point a changé de destination. Donc c'est une étude très approfondie et qui existe depuis près d'une quarantaine d'années et qui regarde l'occupation de l'espace. C'est ce que montre cette étude dont la dernière édition pour 2008 a été publiée à la fin de l'année dernière. C'est que il y a une surconsommation d'espace tout à fait énorme. C'est-à-dire que chaque année, on artificialise, alors c'est un mot un peu compliqué qui veut dire qu'on urbanise, qu'on développe des zones industrielles, des parkings de supermarchés, enfin tout ce genre de choses, avec une rapidité extrêmement grande, près de 70 000 hectares par an, c'est-à-dire 700 km², ou pour reprendre une autre image, un département tous les 10 ans. Et c'est une surconsommation de l'espace parce que c'est une occupation qui croît beaucoup plus vite que l'augmentation démographique. On pourrait se dire que la population française augmente, donc c'est normal qu'elle occupe plus d'espace. C'est tout à fait vrai. Sauf que la rapidité de consommation de l'espace, d'urbanisation, d'artificialisation, croît 4 fois plus vite que la croissance démographique.
On s'est rendu compte que les forêts, là, donc, tout à fait récemment, n'augmentaient plus. Et ce n'est pas du terrain qui est donné aux terres agricoles, mais bien du terrain qui est donné à l'urbanisation.
Voilà. Alors, ce que montrait la dernière étude Terruti, et dont on a fait un grand écho dans Le Monde, dans le journal Le Monde, c'est que, effectivement, pour la première fois en 2008, les statisticiens observent qu'il y a une inversion de cette tendance séculaire qui existe depuis, j'ai discuté avec les statisticiens, c'est depuis plus de 150 ans que la forêt gagnait du terrain en France. Vous savez que depuis la Révolution française, il y avait très peu, au moment de la Révolution française, il y avait très peu de forêt en France. Elle a depuis continué à recroître de manière tout à fait importante. Et puis, ce mouvement s'est interrompu, nous disent les statisticiens, en 2008. C'est-à-dire que maintenant, en gros, avant, l'abandon des terres agricoles allait une partie à l'urbanisation, une partie vers les forêts. Et maintenant, en gros, tout part vers l'urbanisation.
Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire, parce que ça mérite une émission vraiment à part entière. Je pense qu'on la fera dans CO2, mon amour. On l'avait déjà faite il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, donc, plan d'occupation des sols, les fameux aussi PLU. Un agriculteur qui ne gagne pas forcément sa vie se dit « j'ai ma caisse de retraite » en vendant, évidemment, sur du terrain à bâtir et non pas du terrain agricole. Ça va me rapporter beaucoup plus, ça peut se comprendre. Des promoteurs qui vont vous faire des zones pavillonnaires. Le rêve individuel, ce n'est pas une critique, c'est un constat. De la maison individuelle. Donc c'est tout ceci qui est mêlé. Et puis derrière tout ça, ça voudrait dire aussi beaucoup plus de transport derrière, parce qu'en général, ça se fait évidemment à l'extérieur de la ville. Donc quels sont les leviers que l'on a par rapport à ça, quoi ?
Le levier, me disent les experts de ce domaine, c'est la différence énorme entre le prix de la terre agricole et le prix de la terre à construire. Et donc c'est dans ce... Vous avez une terre, elle peut devenir constructible, elle multiplie sa valeur par au moins 10 fois. Et donc c'est ce mécanisme de spéculation qu'il faut changer, et ça appelle des zones d'aménagement concertées, c'est-à-dire une vraie politique urbaine de faire en sorte qu'un certain nombre de terres restent agricoles, qu'on ne puisse pas faire de spéculation sur ces domaines. Alors les plus aventureux, c'est quelqu'un comme Edgar Pisani, dont on a réédité le livre excellent, je suis en train de le lire, qui s'appelle Utopie foncière, je crois que c'est aux éditions du Linteau, c'est vraiment intéressant. Il dit il faut une propriété collective du sol. Alors, sans aller peut-être jusque-là, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est casser ce mécanisme spéculatif qui fait que quand on dit qu'une terre va devenir constructible, il n'est plus possible de faire de l'agriculture dessus parce que le revenu agricole ne peut pas faire face à ça.
Éric Levert, sur ce thème.
Oui, je voulais juste signaler que cette année est l'année de la biodiversité et une des conséquences majeures de ce genre d'occupation du sol, c'est l'absence de continuité écologique. Alors, je sais que ce n'est pas très politiquement correct de dire continuité écologique, il faut dire trame verte. Et bleu, mais ça n'empêche que c'est de la continuité écologique,
corridor,
c'est-à-dire
continuité écologique.
On se retrouve avec des espèces, alors ça sera botanique ou zoologique, mais on se retrouve avec des espèces qui sont coincées, qui vont disparaître tout bêtement parce qu'elles ne pourront plus se répandre. Et ça, juste à cause d'une route, à cause d'un aménagement, de quelque sorte que ce soit. Et sans biodiversité, il n'y a pas de bio, il n'y a pas de vie. Donc, en tout cas, il n'y a pas de vie humaine. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut penser maintenant, avant que dans 30 ou 40 ans, on se dise « Tiens, flûte, on aurait dû faire différemment ». C'est une notion clé.
Alors Jean-Marie Pell, ça c'est un sujet qui vous tient évidemment extrêmement à cœur, et il se trouve, puisque l'on parle à la fois de terrain, que vous avez passé une soirée hier chez des paysans bio. C'était pas très loin de chez vous.
Oui, c'était à Villers-la-Chèvre, tout près de Longwy.
Donc il y a encore des chèvres ?
Non, il n'y a plus beaucoup de chèvres, mais le maire est un jeune paysan, très bio, très écolo. Nous avons été reçus dans sa ferme, où la table est ouverte aux hôtes en permanence, et où le grand débat que nous avons eu, c'est sur cette question précise. C'est qu'en effet, ces terres agricoles sont mangées par les zones d'activité, par les hypermarchés, par la macadamisation, et ça, c'est des inquiétés beaucoup. Et donc, on a débattu de savoir comment il faut s'y prendre. Alors, il a un projet que j'ai trouvé tout à fait remarquable, c'est de faire un petit ensemble qui ne sera pas une zone pavillonnaire, mais une zone de maisons passives qui consommeront donc très peu d'énergie et qui seront accolées, comme étaient accolées les maisons de nos villages lorrains. En plus, il fait du bio, en plus, s'ils ont organisé un système où des producteurs travaillent pour le terroir, en produisant naturellement des légumes, des fruits, mais aussi des produits laitiers. Ils sont en train de créer une petite entreprise fromagère. Donc ils sont complètement dans l'esprit que je rêve de voir petit à petit s'instaurer sur la terre. Alors vous pourriez me poser maintenant une question subtile. Comment font-ils pour avoir de l'emploi ?
Comment font-ils pour avoir de l'emploi ?
Eh bien, ils vont au Luxembourg, à 15 kilomètres, où il y a un dynamisme économique extraordinaire, où se crée une ville nouvelle qui s'appelle Belleval. Et cette ville attire les travailleurs et les Lorrains. Donc, ils ont la chance de se trouver dans une zone où il y a à la fois la possibilité de développer des productions écolo qu'ils vendent dans cette ville, à proximité. Donc c'est de la relocalisation de l'économie du territoire. Ça va tout à fait à l'encontre de la mondialisation. Et j'étais très heureux de cette soirée parce que je me suis trouvé dans un milieu profondément accueillant et profondément humain. Moi, je trouve que l'économie, c'est un monde de brutes, tel qu'elle est aujourd'hui et tel qu'elle est mal vécue par d'innombrables gens dans les entreprises, dont on ne sait plus qui est le patron d'ailleurs, parce que c'est des fonds de pension américains. Et cette relocalisation des activités basées sur la terre, basées sur la manière d'économiser les terres agricoles, basées sur une agriculture bio de proximité, j'ai passé une soirée formidable.
Merci beaucoup Jean-Marie. On va faire un petit tour du côté de Vancouver avec vous, Anne Charron. Vancouver qui n'a pas forcément la médaille d'or de l'environnement, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais quand même.
Oui, Vancouver qui accueille depuis cette nuit pour nous les Jeux Olympiques, s'est promise de devenir la capitale, la ville la plus verte du monde d'ici 10 ans. Ils ont commencé à l'occasion des Jeux Olympiques à tester un petit peu à faire leur classe, on dira. Alors, ils n'ont pas été très aidés par la météo. J'ai entendu tout à l'heure pendant le flash qu'il neigeait aujourd'hui à Vancouver, mais on a vu précédemment, il manquait cruellement de flocons, ce qui les a contraints à jeter des noyades camions sur les routes ces derniers temps pour acheminer de la neige depuis d'autres contrées. Mais ils ont quand même fait des efforts louables. Les toilettes de la patinière fonctionnent à l'eau de pluie. La chaleur produite pour fabriquer la glace sert à chauffer les bureaux. La charpente du stade provient d'arbres mâles qui ont été recyclés. Le village olympique qui sera transformé ultérieurement en quartier résidentiel, mais qui accueille en ce moment quelques 3000 athlètes échauffés grâce aux égouts. Il récupère également l'eau de pluie de façon à diminuer de moitié la consommation d'eau courante. Les spectateurs qui viennent regarder le spectacle ont interdiction de gagner les sites en voiture et seront acheminés par des navettes fonctionnant à l'hydrogène. Et même la mascotte des Jeux, Mouk Mouk, c'est une espèce de marmotte locale en voie d'extinction. Donc réellement, la volonté est là. En tout cas dans l'affichage, et les organisateurs espèrent bien que leurs efforts vont leur permettre d'éviter 18% d'émissions de gaz à effet de serre. Le bilan reste quand même élevé puisqu'il devrait atteindre 268 000 tonnes d'équivalent CO2. Et même s'ils ont promis de compenser une partie de ces émissions, notamment en passant un accord avec une ONG qui va être chargée, grâce au crédit que Vancouver va leur reverser, de financer des projets d'économie d'énergie renouvelable, notamment en Turquie, j'ai vu de l'éolien à Izmir. Mais, et là c'est le mensuel Terra Eco qui le note, cette compensation payée par la ville, elle omet quand même les émissions de gaz à effet de serre des spectateurs, des médias, des sponsors, qui au total devraient quand même représenter 150 000 tonnes d'équivalent CO2. C'est la preuve que c'est vraiment difficile de se montrer vertueux, même à l'occasion d'une grande cause humanitaire comme les Jeux Olympiques. Et puis c'était pour moi l'occasion de faire un petit coup de chapeau à Terra Eco, qui est un magazine qui va fêter bientôt sa première année en kiosque. Et c'était courageux de se lancer l'an dernier en pleine crise, sur un format papier. C'est des jeunes gens qui sont basés à Nantes, je crois, qu'il l'édite. Il y a plein d'infos intéressantes. J'ai appris qu'il fallait 170 litres d'eau pour faire un verre de jus d'orange. Mais il y a aussi des dossiers un peu plus lourds chaque mois. Le mois dernier, c'était sur la viande. Et puis, ils ont aussi une approche assez...
Là, en février, ils le font. Marrant. 65 millions de carnivores. Hein, pour la planète, êtes-vous prêts à manger moins de viande? Donc c'est celui-là. Non, mais effectivement, ils font de l'excellent boulot. Donc, on les retrouve, nous, assez régulièrement.
C'est l'écologie qui fait réfléchir. Et puis, en même temps, assez... assez désinhibé, qui peut être drôle aussi.
Eric Glover, pour
l'enfant Je ne peux que confirmer l'intérêt extrême de Terra Echo, pour comparer avec d'autres journaux sur la planète, c'est vraiment un très bon journal. Par ailleurs, pour Vancouver, je voulais le signaler, alors ça c'est le Globe and Mail, donc un des grands journaux canadiens, hein, qui fait remarquer que la fondation de David Suzuki, qui est donc la grande fondation, ou l'une des grandes fondations de l'environnement, ne leur a pas donné la médaille d'or, justement, puisqu'on en a parlé, mais juste celle de bronze, en leur reprochant d'avoir fait beaucoup, ça c'est clair, mais en leur reprochant de ne pas avoir pensé assez en termes durables. C'est-à-dire que c'est un des problèmes numéro un, c'est pas Athènes ou Barcelone qui diront le contraire, de savoir ce que l'on fait des installations olympiques une fois qu'on a fait joujou pendant 15 jours ou 3 semaines, 15 jours en fait, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces trucs? Eh bien voilà, ça c'est Global Mail remarque que ça n'a pas été suffisamment pensé par les Canadiens, par Vancouver, ça, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu, malgré tous les efforts faits que Anne a soulevé, ils n'ont pas eu une médaille d'or. Et je dois signaler une autre chose, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas un beau temps à Vancouver. Vancouver n'est pas une ville aussi froide que ce que l'on veut croire, et tout le monde le savait. Alors ça, c'est un autre problème sur l'olympisme, sur les Jeux Olympiques, c'est aujourd'hui, on ne donne plus les Jeux Olympiques d'hiver à des villes où il y a de la neige, on donne les Jeux Olympiques d'hiver à des villes qui ont les moyens de payer et qui veulent attirer les Jeux Olympiques. À quand les Jeux Olympiques d'hiver? À Tombouctou, avec à côté des installations qui vont être complètement factices, mais qui vont faire venir les skieurs.
À Bordeaux, là, à Toulouse, on peut...
Voilà, là, il y a maintenant... Il y a Dubaï aussi qui est
accepté. À Dubaï. À Dubaï.
Mais Nice voulait être aux Jeux Olympiques. Mais elle, là, la question, elle est formidable, Eric.
C'est
moi, j'ai envie d'en poser une encore, mais plus totalement incorrecte. C'est... Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire des Jeux Olympiques d'hiver?
Comme vous
bien
y allez.
Bien sûr.
Alors les faire toujours à un ou deux endroits et avec moins de débauche d'argent et avec des skieurs qui viendraient pour le plaisir et pas forcément pour de l'argent.
Alors mais... là, j'ai un élément de réponse. Alors, je rappelle juste qu'il va y avoir une piste qui va ouvrir à Paris, là, dans la région parisienne, une piste de 100 mètres de haut, 500... Voilà, il va y avoir, pour faire du ski à Paris.
C'est à complètement la
Butte Montmartre non, dans le sud.
Sur les plantes de Bercy.
Ouais, dans les sud, je ne sais pas très bien où, mais je sais que ça va ouvrir là. Alors, pour répondre en partie à Hervé, je ne sais pas pour les JO, mais déjà, le rallye Dakar, qui n'a rien de Dakar, l'arrêter est quelque chose d'impossible. On fait un rallye Dakar en Argentine, c'est quand même hallucinant. Et alors, c'est une lutte crasse au niveau géographique.
Là, vous avez une petite information intéressante.
Et alors voilà, c'est ça. Oui. Et là, c'est un magazine sénégalais qui s'appelle Coche et qui dit « Merci Ben Laden. Merci Ben Laden. Grâce à toi, Ben Laden, il n'y a plus de Paris-Dakar. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette espèce de saloperie sans nom. » qui nous pourrissait la vie, qui a tué 55 personnes, dont personne n'a envie de s'interroger, et qui ne vient plus polluer chez nous. Alors maintenant, ça pollue en Argentine. Alors évidemment, les Argentins qui sont intelligents, ils ont une ONG qui est allée se plaindre en essayant de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de pollution dans la région de Cordoba. Ça n'a pas marché et on n'a pas arrêté le Paris-Dakar.
Moi, je trouve quand même que tout ça est scandaleux parce que là, vous allez contre la croissance, Eric. Tout ce discours-là, je supporte pas. Et voilà, c'est abominable. Et puisque vous dites du bien de journal, je voudrais dire du mal de cet abominable journal La Décroissance, qui est sous-titré Le journal de la joie de vivre, et qui s'oppose régulièrement à la croissance. Et voilà, et c'est aussi un journal tout à fait intéressant, et qui pose aussi beaucoup de bonnes questions. Et puis allez, tiens, pendant qu'on est dans le truc, juste un petit mot aussi pour L'Âge de Fer, que moi j'aime bien, qui est un journal diffusé de manière très originale, de manière militante, donc qu'on ne trouve pas dans les kiosques, et qui pourtant a trouvé aussi une formule, et maintenant il est lu à plus de 40 000 personnes tous les mois, et qui lui cherche toujours, tous les mois, des aspects positifs, des alternatives positif. Je suis sûr que, par exemple, le village dont parlait Jean-Marie se retrouvera dans L'Âge de Fer. Donc, L'Âge de Fer et puis La Décroissance qui disent du mal de la croissance, qui est quand même tout à fait scandaleux.
Voilà. Et donc, on retrouve ces journaux, vous l'avez compris.
C'était
notre vie. Oui, mais c'est ça aussi, la ronde des journalistes, c'est donc cela. Allez, on y va en musique grâce à Muriel Pérez qui a choisi Angus et Julia Stone.
C'est beau. Ils veulent détruire ça. Il faut supprimer la peine de mort. Sauf contre les architectes.
Mais attends avant de juger. Le projet est sans doute très respectueux du site.
Respectueux, tu as dit le mot. Mais c'est ça qui est grave. Au nom du respect, on peut tout faire. On justifie le pire vandalisme. Ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable.
C'est Au-de mon amour, avec Denis Chessou.
Hello, mister. Pleased to meet you.
Oui, bah c'était Big Jet Plane, bien sûr. Et donc, on va atterrir avec un petit peu moins de CO2. Enfin, quoique, donc, dans cette ronde des journalistes. Un petit mot, Eric Glover, dont je le rappelle, courrier international, qui nous emmène du côté d'Albertville. C'est pour rester un peu dans le domaine du ski, mais on va recycler les skis.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une semaine de ça, on a fait un numéro spécial un peu sur la Savoie. Et donc, dans ce numéro, ben, on allait voir Le Temps de Genève, un journal suisse, qui faisait juste remarquer que chaque année, ben, les skis, ça va jusqu'à un tiers des skis, voire la moitié, qui sont renouvelés et on ne sait plus quoi faire de ces skis. Et donc, il y a une petite entreprise locale qui s'appelle Trivalley qui a commencé donc, à recycler ces skis. Parce que jusque-là, très souvent, ce qui se faisait pour la mode, c'est au bout de 2 ans, on les revendait, on les refaisait partir vers la Pologne, vers les Tchèques, vers les Croates. Alors bon, très bien, mais eux, qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière? Ce qui est une fâcheuse habitude, et là on revient un peu à Copenhague, c'est une fâcheuse habitude occidentale, c'est d'exporter notre pollution. Alors on fait ça avec des ordinateurs, hein, très souvent. Et puis bah, ensuite, c'est les autres qui sont avec des problèmes. Et là, il y avait ce souci. Donc Trivalley, lui, c'est l'entreprise, recycle beaucoup et Le Temps consacrait un article à cela en disant, mettant en avant le bon travail des Français, puisqu'il signalait que les Suisses ne le faisaient pas et les Français le faisaient.
Voilà, on pense à vous si vous êtes sur la route des vacances, là, tranquillement, peut-être en train de bouchonner dans le froid. Bah, voilà, ça vous donne une petite information aussi plus que locale. Donc, on est vraiment dans notre série réduire tout d'abord, réparer, réutiliser, recycler. Et pour les fumeurs, Anne Chaon, que se passe-t-il aussi sur les pistes de ski?
Ah oui, j'aime bien cette histoire. J'ai vu qu'un grand fabricant de tabac britannique avait décidé de distribuer des cendriers de poche au bas des pistes pour les skieurs clopeurs.
Bah oui.
En disant, puisqu'on ne peut plus fumer à l'intérieur, on fume à l'extérieur. Et donc, c'est, le mieux, c'est d'équiper les fumeurs pour éviter de se retrouver avec des plantations de mégots sous les téléciels.
Les vaches, elles n'aiment pas au printemps.
Au dégel du printemps. Ouais. J'ai trouvé un chiffre, alors je ne peux pas m'en porter garante, mais il est quand même spectaculaire en l'état. On ramassera en moyenne 30 000 mégots sous chaque télésiège des grandes stations de ski.
D'accord.
Et je vous rappelle qu'un mégot, ça met 1 à 5 ans avant de s'autodétruire.
Et dans notre société qui est un petit peu comme ça, qui aime bien tout diriger, on n'a pas encore pensé à des télésièges non fumeurs. Donc on ne va pas jusque-là quand même.
Ce même fabricant de tabac avait mené une opération similaire en distribuant en 2008 150 000 cendriers de poche. Et s'était retrouvé assigné en justice par une association qui s'appelle Droits des non-fumeurs, qui a été déboutée en première instance, mais qui a fait appel. Et là, je trouve que quand même, c'est plus malin de permettre aux fumeurs de se livrer leur vice sans laisser de traces au sol que de vouloir interdire tout à tout le monde.
Une société merveilleusement.
Un peu pour ma paroisse.
Non, c'est pas
mais
ça.
Mais ils jettent pas les cendriers portatifs au pied des télésièges une fois qu'ils sont.
Non, je sais pas, j'ai pas la fin de l'histoire, mais j'imagine qu'il y a des containers pour recueillir les.
Vous nous écrirez
les
sur
cendriers salis.
Voilà pour nous dire tout ça. Un petit point alors très rapide sur la chasse quand même parce que il y a quand même des associations tout à fait intéressantes comme l'association pour la protection des animaux sauvages.
L'ASPAS,
ouais. Voilà, qui font un sacré boulot de terrain. Que se passe-t-il? Là simplement, quelle est un petit peu leur demande?
Eh bien, ils ont fait circuler une pétition qui, à ce jour, a recueilli plus de 250 000 signatures. Pétition qui a été adressée à Jean-Louis Borloo pour demander qu'un jour dans la semaine, le dimanche en l'occurrence, soit réservé aux promeneurs et aux randonneurs et donc interdit aux chasseurs. Ce qui était le cas il y a quelques années, en 2000, on avait une loi qui interdisait la chasse le mercredi, le jour des enfants. Puis en 2003, cette loi a été abrogée. Donc l'ASPAS et d'autres ne se préoccupent pas seulement de la protection des animaux sauvages, mais aussi de celle des randonneurs.
Oui, parce qu'il rappelle à juste titre que c'est la seule activité de loisir qui blesse ou tue chaque année.
J'ai des chiffres.
Des dizaines de personnes qui ne participent pas à l'activité en question.
En 2008-2009, 106 accidents de chasse qui ont fait 29 morts recensés par l'ONCFS. Et pour 2009-2010, on en est déjà à 69 accidents et 17 morts.
Voilà, qui dit mieux. Éric Glover, alors sur ce sujet aussi.
Oui, sur la chasse. Ben là, c'est la chasse illégale, justement. C'est celle des braconniers. C'est une petite anecdote qui sort de Wired, un magazine qui est pourtant plutôt consacré aux technologies. Mais là, c'est justement, il s'agit de technologie. C'est une entreprise qui a mis en place une sorte de robot, d'automate, avec des servomoteurs, etc., etc. Et c'est un taxidermiste. Donc, il met des apparences d'animal. Et puis, quelques moteurs permettent de bouger certaines parties de l'animal, la tête, la queue, ce qui donne l'impression qu'il est vivant, mais stable, et ça permet d'attraper les braconniers qui tirent dessus. Parce que l'un des problèmes d'un braconnier, c'est que pour l'attraper en flagrant délit, il faut accepter qu'il ait tué l'animal. Quand ce sont des animaux en voie de disparition, c'est pas terrible comme méthode. Donc grâce à ça, le robot sert de cible, il sert de leurre, et grâce à ça, on tire sur le robot, c'est un robot qui meurt, c'est moins grave, et en revanche, c'est un braconnier en moins s'il est pris en flagrant délit, ce qui est le but de la manœuvre.
Alors un homme en Moselle qui ne pratique pas exactement la chasse, c'est Jean-Marie Pell. Vous êtes toujours là, Jean-Marie? Cher Jean-Marie, oui, vous êtes là.
J'écoute l'émission.
Bah oui, vous écoutez, vous êtes tout à fait tranquille, au coin de votre feu. On va s'intéresser à d'autres animaux bien pacifiques, ce sont les abeilles. Et là, vous avez une petite étude de l'INRA qui vient de sortir.
Oui, très importante à mes yeux, parce que c'est ce que j'ai toujours ressenti. On vient de montrer à l'INRA que si les abeilles se portent mal, c'est aussi parce qu'elles sont très mal nourries. Dans la mesure où les petites fleurs sauvages ont disparu, il n'y a plus de haies pour les abriter. Dans les champs, il y a des pesticides. Nos abeilles vont se nourrir sur le maïs, ce qui ne leur convient pas. Et cette étude a montré que si on les nourrissait avec une série de plantes sauvages à nectar, elles se portaient beaucoup mieux. Donc elles sont comme nous. Elles ont besoin d'une grande diversité d'aliments. Et la difficulté dans laquelle se trouve l'apiculture actuellement, je vous rappelle qu'on a perdu 20 000 apiculteurs en France en 5 ans, on en a perdu plus de la moitié aux États-Unis en 5 ans, parce que les abeilles se trouvent en péril, du fait justement qu'elles sont mal nourries, mais aussi du fait que les pesticides agissent sur elles, que leur immunité baisse, qu'elles chopent toutes les maladies qu'ils prennent, comme c'est le cas pour nous aussi, quand notre immunité est basse et quand nous sommes fragilisés, eh bien, nous commençons à comprendre ce qui se passe pour les abeilles. Donc, il y a ici la nécessité de conserver une biodiversité végétale. Quand on parle de biodiversité, on parle toujours de l'ours polaire, des orang-outans, et c'est très bien, c'est émouvant d'ailleurs, parce que ce sont des animaux qui nous sont sympathiques, mais toutes ces petites fleurs des champs qui ont massivement disparu, ont créé une situation de pénurie alimentaire grave pour nos abeilles, et c'est ce que cette étude a montré, et elle va tout à fait dans le sens que j'ai toujours ressenti de ce point de vue.
Jean-Marie, vous continuez à écouter parce que là on va parler de déchets nucléaires avec vous, Anne Chaon, donc je le rappelle, de l'agence France Presse. La CRIRAD donc dénonce un arrêté qui permettrait d'inclure des rebuts dans des bâtiments. Alors, évidemment, c'est donc faiblement radioactif, mais de quoi s'agit-il?
Oui, c'est une nouvelle histoire de déchets nucléaires qui vient d'être déterrée par la CRIRAD, qui est, je vous le rappelle, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et elle vient de déposer un recours au Conseil d'État, effectivement, contre un arrêté ministériel qui est paru au Journal officiel en mai 2009. Alors, je ne sais pas ce qui justifie ce petit délai. Toujours est-il que cet arrêt autorise les industriels à écouler une partie de leurs déchets faiblement radioactifs. Hein, on ne parle pas des déchets de centrales nucléaires, quand même. Mais d'écouler une partie de ces déchets en les mélangeant à d'autres matériaux pour en faire des gravats ou du ciment. Et c'est cette perspective, justement, de mixer ces déchets faiblement radioactifs, avec d'autres matériaux pour en faire des routes ou des terrains de sport qui hérissent la CRIRAD. Elle considère que ce décret ouvre une brèche dans le code de la santé publique qui, lui, interdit strictement l'utilisation des substances radioactives dans des matériaux de construction. Et pour la CRIRAD, disséminer même de très faibles substances dans la nature, c'est prendre le risque d'augmenter le risque de cancer. Et aujourd'hui, seuls 10% des déchets les plus radioactifs sont enfouis dans des centres de stockage spécialisés. Le reste est déposé dans la nature, derrière des grillages. Mais surtout, ce qui inquiète la CRIRAD, c'est que nous sommes à la veille du démantèlement de vieilles centrales électriques, donc de potentiellement des millions de tonnes de gravats à venir, et qu'évidemment les industriels pourront être tentés de se défaire à bon compte de ces millions de tonnes de gravats.
Bon, donc affaire à suivre. Jean-Marie Pelt, allons du côté de la Baltique, s'il vous plaît, avec vous, parce qu'on a plutôt une bonne nouvelle.
Ben oui, j'ai lu cette semaine que les 8 pays riverains de la Baltique ont signé un engagement collectif pour dépolluer cette mer, qui est une mer presque fermée, coincée entre la Suède et la Finlande, pour essayer de redonner de la vie biologique à cette mer qui est presque abiotique, tellement elle est polluée. Alors, on va donc multiplier sur les rives les stations d'épuration, et j'ai cru sentir qu'il y avait là une vraie forte volonté politique de tous ces pays. Je vous rappelle qu'il s'est passé exactement la même chose pour le Rhin, qui a été gravement pollué à la Toussaint 1986 par un accident survenu à l'usine chimique Sandoz à Bâle. Le Rhin a été presque mort, et aujourd'hui, par la volonté des pays riverains, il y a de nouveau des saumons dans le Rhin. Je vous rappelle que la mer d'Aral s'était presque vidée, mais que la volonté de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan ont fait qu'on est en train de la reconquérir. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans le monde de l'écologie quand il y a une forte volonté politique partagée et transnationale. Ce point est très important. L'écologie ne connaît pas les frontières. Eh bien, on aboutit à des résultats positifs.
Autre nouvelle peut-être positive aussi de votre part, Hervé Kempf?
Je ne sais pas si c'est une nouvelle, c'est plus un moment, j'allais dire. J'ai eu l'occasion de voir en avant-première le film de Colin Serrault qui va sortir, je crois, le 7 avril
qui
en salle.
Notre invité le 3 avril,
ah, c'est
en
super.
Direct.
Bah, voilà. Écoutez, vous allez passer un bon moment. Oui. Et son film, alors bon, en tant que journaliste, on voit des avant-premières, je ne suis pas très familier de ça, mais là, j'ai été voir. Et c'est un film qui, d'abord, porte un très joli nom, Les solutions locales pour le désordre global, et qui est un voyage en agriculture biologique ou en agriculture alternative, qui à la fois montre des gens merveilleux comme Claude Bourguignon ou Pierre Rabhi ou Philippe Desbrosses, que on connaît bien ici, je crois, et puis qui montre aussi dans tout un tas d'endroits du monde, en Inde, en France, des expériences au Brésil, des expériences d'agriculture biologique qui marchent bien, qui marchent autant, aussi bien, j'allais dire, que l'agriculture productiviste habituelle. Et voilà. Et donc, c'est un moment de bonheur parce que ça montre qu'une fois de plus, une autre société, c'est possible. Et j'ai envie de relancer, enfin de reparler de Alimentons les régions, ce projet dont je crois vous avez parlé déjà assez au Demande Amour, qui est absolument formidable et qui dit, eh ben, on parlait tout à l'heure de gaspillage d'espace. Un enjeu pour arrêter de bouffer cet espace, c'est d'installer des jeunes agriculteurs. Il y en a plein qui veulent le faire et simplement, ils ont du
du mal à le faire. Donc il y a ce mouvement Alimentons les régions qui se bagarre pour rendre possible l'installation de jeunes agriculteurs. On pourrait aussi citer un autre mouvement, Reclaim the Field, ça vient de l'anglais, Reclaim the Field, qui est dans la même logique. Donc voilà, tout ça, ça nous donne, moi je crois, ça me donne de l'optimisme et ces gens se bagarrent pour dans la bonne direction.
Je vous propose d'écouter à présent donc un petit son de Joseph Stiglitz, qui était donc l'invité hier chez Nicolas Demorand, donc prix Nobel d'économie, qui a sorti Triomphe de la cupidité.
We need to change.
Nous devons changer la façon dont l'économie de marché fonctionne. Nous avons besoin d'une économie de marché. C'est un instrument. Ça peut être utilisé comme un instrument pour le bien ou pour des choses qui ne sont pas aussi bonnes que ça, pour créer des problèmes. Le problème, c'est que la façon dont l'économie de marché est façonnée aujourd'hui, eh bien, elle encourage les mauvaises choses. Ça n'encourage pas la préservation de l'environnement. Ça encourage les attaques contre les pays les plus faibles en Europe. On peut changer les incitations. On peut faire en sorte que l'environnement soit protégé. On peut décourager ce type de spéculation. Et c'est véritablement le défi auquel nous devons faire face. Mais je partage la frustration, par exemple, aux États-Unis, dans l'économie mondiale, on n'a pas commencé ce processus de changement qui est dont on a besoin, qui est nécessaire. Si on se rend compte que nous ne prenons pas en compte la dégradation de l'environnement et les ressources naturelles, si on change notre système de mesure, on va pouvoir rediriger nos énergies vers des directions qui, à long terme, auront pour résultat une société qui reflète nos valeurs. Et ce qui est important ici, c'est que ces réformes vont durer beaucoup plus longtemps que quelques présidents que ce soit ou quelques conseillers que ce fût.
C'était notre grande série, il n'y a pas que le PIB dans la vie. Petite réaction très courte peut-être de votre part, Eric Kempfer.
Formidable que ces idées soient portées par quelqu'un qui a une audience aussi forte que Stiglitz. Il parle effectivement que l'économie de marché peut être bien, il a raison. Et en ce sens-là, il faut distinguer l'économie de marché du capitalisme. Le capitalisme, c'est une marchandisation, une économie de marché étendue à l'ensemble des relations humaines, à l'ensemble des biens environnementaux. Il faut réduire ça, il faut ramener l'économie de marché à ce qu'elle sait faire. Et pour tous les domaines importants sociaux, de biens sociaux ou de biens environnementaux, avoir une autre logique, une logique qui soit hors de la cupidité, comme il l'a dit, et qui se réfère à d'autres indicateurs que ceux du PIB et de la croissance, qui sont totalement faux.
Jean-Marie Pelt, le décalage entre la volonté des décideurs et le souhait des citoyens, vous le ressentez à chaque fois que vous sortez ?
Très fort. Je circule beaucoup en ce moment, je vois beaucoup, beaucoup de monde partout. Je crois bien ressentir les aspirations des citoyens. Et puis je rentre chez moi, je lis le journal, et alors c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, la tartine du PIB, de la croissance, des multinationales, de leur chiffre d'affaires. C'est comme s'il y avait deux mondes. Et je constate aussi que dans les dites multinationales, beaucoup de gens se sentent mal parce que les rapports du travail sont désastreux, parce que l'instrumentalisation vraiment de la patte humaine est inacceptable telle qu'elle se produit aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un décalage formidable. Alors, l'avenir, ça devrait être quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu hier soir à Ville-et-la-Chèvre, où il y avait des rapports humains de très grande qualité. Et ça, c'est très beau.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Pelt. Pardon aux uns et aux autres pour les frustrations et les thèmes qu'on n'a pas forcément abordés. Donc, merci à Hervé Kempf, que l'on retrouve à la fois sur le site Reporter et puis aussi dans votre rubrique du Monde aujourd'hui, dans le Monde. Anne Chaon, donc, de l'agence France Presse, Éric Glover de Courrier International et donc Jean-Marie, que l'on retrouvera la semaine prochaine.